I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette nouvelle saison, nous accueillons des artistes de la nouvelle scène française. Elles font parler d'elles et nous avions envie de leur donner la parole.
Autrice, chroniqueuse, actrice, performeuse partagée entre nonchalance et anxiété, Nora Hamzaoui est une conteuse de notre époque qui nous fait rire mais qui nous bouleverse aussi. Ce qui fait qu'on peut aussi bien la voir chez Olivia Assayas que sur une scène, un one-woman show en train de raconter des milliards de trucs parfois improbables mais qui, souvent, touchent très juste. Ton dernier livre, Nora, s'appelle 35 ans, donc 15 avant Internet. Alors finalement, ça a changé quoi dans ta vie, Internet ?
Bah déjà, merci pour cette intro. Ça a changé mon rapport au temps, mon rapport au monde, mon rapport à moi, à mon image ou à mon regard sur moi, sans doute. Mais le plus, c'est le rapport au temps, je pense. Le rapport au réel, à pas confondre ce qui existe dans la vie de ce qui existe au sein de ta propre réalité et de ton quotidien. En fait, ça a augmenté les dimensions du réel, quoi. C'est comme si la vie était devenue un peu plus double et que parfois, il fallait faire le choix d'être dans la réalité plutôt que l'autre truc pour se protéger peut-être d'un stress, de ne pas être trop dans la négativité, dans l'actualité, dans la comparaison aux autres. Voilà, c'est un drôle de truc. Ça a changé beaucoup de choses.
On va dire qu'on vit une période où le temps, c'est plus trop...
Qui a aussi changé notre rapport au temps.
Tu vois, on ne sait plus trop vraiment ce que c'est le temps.
Ouais.
Ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas pu monter sur scène comme c'était prévu.
Ouais.
Alors que je sais que la scène, c'est quand même quelque chose qui t'apporte beaucoup de liberté, d'indépendance dans ton métier de comédienne.
Ouais.
Comment t'as tenu le coup ?
C'était assez fou parce que... Et en effet, on n'arrive plus à se souvenir, là, le premier confinement, le truc depuis combien de temps et tout. Mais moi, j'ai vraiment, avant la pandémie, enfin, avant que ça arrive, avant le premier confinement, j'étais dans une grosse phase de tournée. Et sur une de mes dernières dates, avant que ça arrête, j'ai fait un malaise en Suisse. Vraiment un truc de fatigue, je crois, où j'ai fait un malaise sur scène, en gros. Et vraiment, je me sentais ultra fatiguée. J'avais énormément de tournées à la fin quand je jouais. Et donc, du coup, quand il y a eu l'arrêt comme ça, je l'ai d'abord pris comme une sorte de congé imposé en me disant, bon, bah, peut-être que c'est le moment, peut-être que je sais pas quoi, peut-être que... Et je trouve qu'on était dans un tel truc nouveau, inquiétant, triste. Enfin, je pense qu'il faut pas oublier, et d'ailleurs, on n'oublie pas parce qu'on est quand même tous dans le chaos et que je pense qu'on est tous très déprimés, mais la dureté de ce qui se passe, de cette pandémie, mais que ce soit de la santé... les victimes, mais aussi socialement, enfin, et la santé mentale, on en parlait tout à l'heure, c'est les deux en off. Mais donc, du coup, je pense qu'au tout début, moi, j'ai eu un truc de m'oublier. C'était pas un moment où on pensait à soi, je trouvais vraiment un peu de... C'est comme si on se recueillait un peu tous ensemble. J'étais pas trop dans le truc de me dire, merde, je peux pas jouer et tout. Enfin, j'avais oublié ce côté-là, j'avais oublié l'aspect de me dire le boulot, pas le boulot et tout. Et puis après, petit à petit, en fait, c'est quand on a commencé à avoir un petit accès à la liberté, mais que cette liberté était un peu sous condition. C'est ce truc-là que j'ai trouvé très trouble, en fait. Dès que les choses ont commencé à être ambiguës et dès que j'ai commencé à sentir de l'irrationalité, des choix un peu absurdes, des trucs que je comprenais pas, dès que je me suis dit en fait je suis dépendante de quelque chose que je ne maîtrise absolument pas et qui est pas juste une pandémie mais qui est un truc de on ne sait pas. Moi j'ai vraiment eu ce truc de me dire j'ai l'impression d'être entourée mais que c'était à la fois sur les plateaux télé, à la fois nous entre nous. Il y a eu un moment où on avait le sentiment que ce soit des médecins, le gouvernement ou tes potes, tout le monde avait le même discours, ce qui est absolument pas rassurant parce que tu dis on n'est pas supposé tous se dire... On était tous qu'en hypothèse de la vie. Et donc, ce truc-là a rendu les choses compliquées parce que je me disais, bah, si ça se trouve, en fait, on ne remontera jamais sur scène. Et évidemment, j'avais des gens autour de moi qui me disaient, non mais évidemment que si. Mais tu sais, c'est toujours ce truc où, avec du recul, il y a un an, quand on te disait, dans un an, ce ne sera pas réglé, j'en t'attends quand même, bien sûr que si. Ben non. Et il y a eu ce moment où, je me souviens, au début de la pandémie, où les gens te disaient, non, mais écoute, la grippe espagnole a duré tant de temps. Et là, en fait, ça a vrillé. Les gens sont tellement habitués. L'autre jour, j'ai un pote qui m'a dit, non, mais là, en fait, ça va durer 10 ans. J'étais là, attends, on est passé de, on a pour quelques mois à accepter que ça va peut-être durer 2 ans à comparer à d'autres grippes. Et maintenant, ça y est, c'est carrément 10 ans, quoi. Là, on est en train de parler des triples variants, des mutants, des trucs 10 ans. Mais bref, j'ai vécu le fait de pas être sur scène petit à petit, une fois que je me suis malheureusement habituée à être dans cette espèce de bulle étrange où j'ai l'impression qu'on vit à côté de la plaque, eh ben, j'ai vécu la scène comme un ex, en fait, que j'aime encore. Donc, à regarder des photos et écouter des vidéos de rire un peu, à pouvoir pleurer et à me rendre compte que ça touchait aussi un truc d'irrationalité chez moi, à comprendre aussi l'importance de ce métier. Et c'est marrant parce que quand on est en interview, on se retrouve à devoir souvent théoriser et justifier pourquoi on a choisi ce métier. Et on se met à comprendre, en fait, comme une sorte de thérapie, le fait que tout à coup, on nous pose la question, on se dit « Ah bah oui, en fait, c'était peut-être ça ». Et là, il y a eu quelque chose un peu comme ça, où moi, je ne m'étais jamais formulé les trucs essentiels de pourquoi je faisais ça. Et là, je l'ai un peu senti dans... Voilà, ça vient toucher, tu te rends compte que ça vient toucher des trucs de névrose. Est-ce que tu veux que... Moi, c'est vraiment ce truc où je ne veux que rien soit grave. J'aimerais que apporter toujours une sorte de légèreté. Et là, il y a ce truc où c'est pas possible.
Justement, le fait que tu aies choisi ce métier, ce qui n'était pas du tout prévu, sachant que tu as une mère obsédée par les CDI, on connaît. Mais tu t'en es rendu compte quand même très, très tard.
Je sais que j'avais un truc jeune, une envie folle de... Déjà, un problème avec les études, avec l'école, avec le fait d'être notée, avec le... Voilà. Et une envie forte d'être adulte, parce que je me disais, être adulte, c'est la joie, c'est être libre, c'est faire ce qu'on veut. Et cette envie-là était en confrontation avec le discours de ma mère. Je trouve que souvent, dans l'enseignement, je dis français, pas pour l'opposer à d'autres enseignements, parce que j'en connais pas d'autres, mais celui que moi, j'ai eu au collège, il y avait un peu un truc de te dire que ça doit se passer d'une manière un peu douloureuse. Moi, je me souviens très bien que j'avais très envie d'être adulte et que les profs arrêtaient pas de te dire « Ah bah si vous pensez que ça va se passer comme ça, que dans la vie professionnelle, ça se passera pas. » Et alors que moi, j'ai trouvé que la vie professionnelle, c'était aussi énormément de joie et la vie adulte, c'est énormément de joie. Enfin, mais j'avais un besoin d'être très libre. Donc, je savais que j'allais choisir un métier qui me permettrait de jouer, mais au sens vraiment un truc d'enfant, de me dire « c'est je veux être libre et je veux jouer », sans me dire « je veux être actrice » ou être, je me disais « je veux raconter des histoires, peut-être que se jouer à la marchande, j'en sais rien, mais je voulais faire ce que je voulais ». Mais j'ai compris tard de pourquoi l'humour plutôt qu'autre chose.
Et tu crois que ça, justement, ce discours difficile, cette pénibilité imposée pour réussir dans la vie par l'éducation nationale, ça a fait toi une cancre? Tu te dis souvent que tu étais cancre.
Mais en fait, j'étais cancre parce que mes frères et sœurs n'étaient pas cancres du tout et que je pense que j'étais à un âge où je me définissais en opposition ou pas aux autres et qu'eux étaient très bons à l'école et que moi, je savais que je n'allais pas être bonne comme ça à l'école. Mais parce que je m'intéressais moins à ça aussi, que j'avais moins ce truc, j'arrivais pas à faire le lien entre ces cours très longs où j'apprenais des choses en me disant mais à quel moment ça va me servir et la vie d'adulte que je projetais. Donc, mais je dois dire quand même que ce truc que je trouve très dur avec des échéances, des examens, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup. Moi, j'ai vraiment été l'élève insupportable qui a genre 2,5 de notes annuelles et qui a 17 au bac parce que tout le monde, en plus, c'est très humiliant parce que tout le monde pense qu'ils se sont plantés de copie, tu vois. Donc, t'es là, bah non, en fait, je peux. J'aime bien le trac et d'ailleurs, enfin, j'aime bien les épreuves. J'aime bien qu'on me teste et qui est sans doute aussi lié peut-être à la scène, tu vois. Ça, c'est un truc que j'aime, le spectacle vivant. J'aime bien que ce soit le contrôle continu et pour moi un truc qui est très difficile. Quand je pense par exemple là, à tous les étudiants et tout, je me disais à la fois, t'as ce truc genre si t'es bon, t'es là, bah c'est cool. J'ai pas le... Pour les gens comme moi qui se disaient, je vais être peinard toute l'année et après bosser. Et faire un pas sur 7 sujets sur 8 en espérant tomber sur le 8e. Et, c'est quelque chose... le contrôle continu, c'est la routine, quoi. Ça fait peur.
Et ta première scène, tu t'en souviens?
La toute première fois que je suis montée sur scène? Je me souviens, en tout cas, que c'est la première fois... Enfin, pas la première fois, mais qu'en tout cas, que quand je monte sur scène, j'ai pas du tout un truc de me dire « Merde, je suis pas à ma place, pourvu que gna gna gna, pourvu que gna gna ». Et qu'il y a juste un truc où je me dis « C'est normal que je sois là, c'est bien, c'est pas grave, c'est pas... » Et je me souviens de ce que ça fait de quand tu fais rire des gens, quoi. Et que même si c'est, il y avait beaucoup de potes, mais tes potes, ça peut être les plus durs. Donc je me souviens de ça. Mais par exemple, je me souviens pas du tout de ma toute première représentation.
Et très vite, tu as parlé de sujets qu'on n'abordait pas forcément sur la sphère, on va dire, publique. Et notamment les syndromes prémenstruels. T'as été quand même hyper en avance. Non, mais c'est vrai.
Ça me fait hyper plaisir que tu dises ça parce que c'est marrant. Ça fait vraiment plaisir parce que, je vois beaucoup de choses passer là-dessus. Et j'ai eu un échange, il y a peut-être genre 2-3 ans, avec une journaliste d'un magazine féminin qui me disait qu'elle regrettait que je ne sois pas plus féministe dans mon propos. Et je lui disais, c'est pas parce que les mots n'y sont pas mis tels que vous aimeriez les lire ou les entendre que ça ne l'est pas, en fait. Et j'avais été un peu... Enfin, je m'étais dit, c'est dingue, parce qu'en fait, il y aurait... Je sais très bien ce qu'il faudrait que je dise pour être écoutée, par exemple, par ce genre de... Et j'essaye de le dire dans le fond et sur les sujets plutôt que la forme. Et je pensais d'ailleurs à ça, où j'avais vu plein de sujets, où je sais pas si c'était forcément des humoristes, mais qui parlaient en effet du syndrome prémenstruel et tout. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, on disait « c'est un show girly qui parle de sujets de filles », parce qu'on était encore très dans ce truc girly, où tout à coup, c'était l'émergence des filles, donc elles parlent de sujets de filles, donc elles parlent de leurs règles, alors que je déteste ce mot qui veut rien dire. Mais surtout, c'était pas un sujet de filles, c'était parler de sa propre réalité, quoi. Et ouais, ça me fait plaisir que tu dis ça, parce que du coup, moi, je suis toujours passée pour quelqu'un, je pense, mais je cherche pas du tout à être transgressive, donc je m'en fous. Mais j'ai toujours eu le sentiment que je pouvais avoir une image assez consensuelle sur certains trucs, tout en pourtant me donnant la liberté de parler de tout. Mais que j'ai toujours eu un timing où j'ai l'impression que, peut-être parce que je veux pas en faire toute une histoire aussi, j'ai jamais fait une vidéo qui s'appelait peut-être mes règles à rendre virale, alors qu'en effet, j'en parlais. Mais oui, bah, c'était pour moi un vrai sujet, ouais, le syndrome prémenstruel.
En fait, ce qui est étonnant, c'est que, qu'on puisse te dire que t'es pas féministe, alors que par la manière dont t'abordes les sujets que tu abordes, tu l'es.
Mais oui, mais en fait, ce qui me rend dingue, c'est qu'il y a ce truc où je... Et puis, je me fais jouer. Je joue toute seule. J'ai choisi ce boulot pour être mon propre patron. Enfin, tout le truc, par essence. Mais c'est un truc qui m'irritait beaucoup. Mais ça, c'était en même temps que l'année de ce t-shirt-là, où il y avait des t-shirts à message féministe. Et je me disais, non, mais attends, on met à côté, là, du propos. Enfin, donc oui, je le suis par essence, mais j'ai le sentiment que tout est tellement un peu pété et anxiogène. Dans l'humour, par exemple, j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, qu'il y a une tendance à faire de plus en plus de l'humour conscient, un peu comme à l'époque du rap conscient, où on disait, et qu'il y a un besoin de faire savoir qu'on a compris le monde dans lequel on vit, et peut-être parfois, pour moi, avec un peu trop de théorie et pas assez de rire. Moi, je trouve que le One Man Show, c'est formidable quand les gens rient, quoi. Je veux que les gens rient, on est là pour rire. Et d'ailleurs, je trouve que rire, il faut pas mépriser ça. Si les gens rient, c'est qu'ils ont compris quelque chose sur tous ces sujets-là. C'est aussi pas l'humour que je pratique, parce que je pratique un humour d'autodérision et que j'ai pas envie de devoir expliquer que j'ai compris quelque chose. Je préfère le déconstruire et en rire, et ce sera ma manière de dire que j'ai compris quelque chose.
Ça me permet de rebondir sur cette fameuse formule de Gloria Steinem, qui est un peu le gimmick de l'émission. C'est « la vérité vous libérera, mais d'abord elle vous mettra en rage ». Qu'est-ce que ça t'évoque?
Mais en fait, pour moi, la vraie question, c'est un sujet de philo, c'est que tout le monde n'aspire pas à la liberté, quoi. C'est que la liberté, c'est aussi l'intranquillité et qu'il y a des gens qui peuvent choisir la tranquillité. Choisir la vérité, c'est en effet accepter de voir les choses en face, d'être lucide, d'être en colère et de, pour accéder à la liberté. Mais la liberté, pour moi, c'est pas du tout le fantasme de je cours pieds nus dans le sable avec une couronne de fleurs sur la tête, quoi. La liberté, c'est quelque chose qui est difficile parce que c'est la lucidité. Donc, ça veut dire accepter de voir les choses douloureuses pour faire des choix fondamentaux et ne pas se mentir à soi-même. Pour moi, dans la liberté, il y a quelque chose de l'ordre de la lucidité, de la vérité, et donc du coup, quelque chose de douloureux. Et je pense que ce qui est très compliqué dans des sujets sociaux, mais aussi dans des sujets parfois familiaux, intimes et tout, c'est à quel point les gens, ou à quel point on est prêt, à quel point notre famille est prête, à quel point les proches sont prêts à faire le choix de quelque chose qui n'est pas agréable, de faire le choix de l'intranquillité, en fait. Parce qu'en fait, pour moi, il s'agit de ça. Il s'agit de quitter des positions confortables pour se mettre en danger. C'est une mise en danger de vouloir être libre et de voir les choses en face, quoi. C'est très facile de se voiler la face et de se mentir. C'est très confortable.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cette mise en danger, ça m'évoque Sophie Calle, qui s'est mise de nombreuses fois en danger. Donc, cette artiste dont on a découvert toutes les deux la vénération commune, ouais. Voilà. Et tu as choisi de nous lire un texte qui est assez particulier parce que c'est l'ouverture d'un de ses livres qui était une exposition. Prenez soin de vous.
Ouais.
Et donc, on t'écoute.
J'ai reçu un mail de rupture. Je n'ai pas su répondre. C'est comme s'il ne m'était pas destiné. Il se terminait par les mots « prenez soin de vous ». J'ai pris cette recommandation au pied de la lettre. J'ai demandé à 107 femmes, dont une à plume et deux en bois, choisies pour leur métier, leur talent, d'interpréter la lettre sous un angle professionnel, l'analyser, la commenter, la jouer, la danser, la chanter, la disséquer, l'épuiser, comprendre pour moi, parler à ma place, une façon de prendre le temps de rompre, à mon rythme, prendre soin de moi. J'ai découvert le livre en plein chagrin d'amour. Ça a été conseillé par une amie avec qui, à l'époque, je travaillais aux Galeries Lafayette. J'essayais d'être comédienne en jouant dans un one-man show. Et la journée, j'étais aux Galeries Lafayette et j'étais en chagrin d'amour. Et je me disais, en fait, c'est de la merde. Tout est de la merde. Je me disais, tout est de la merde, quoi. On ne m'aime pas. Je n'aime pas mon boulot. Je joue devant cette personne. C'est à chier, quoi. Tout est à chier et il ne se passera rien de merveilleux, en fait. Et en fait, cette fille, Aline, m'a parlé de ce livre et c'est comme si tout à coup, tout s'imbriquait. Et que quelque chose que j'avais sans doute fait depuis mon enfance, sans m'en apercevoir, mais qui est de utiliser d'une certaine manière l'intime pour essayer de construire quelque chose de créatif, mais totalement inconsciemment, mais en tout cas de se servir de l'intime pour fabriquer quelque chose et du coup en guérir et du coup être libre. Voilà, tout ce processus m'a énormément touchée parce que je trouve que c'est un livre qui, enfin, son œuvre, son expo, un processus qui montre qu'en fait, c'est le choix de ne pas subir, quoi. Moi, dans mon travail aujourd'hui, que je comparerai jamais, que j'oserai jamais comparer à Sophie Calle, mais quand je parle de l'intime, par exemple, je mets toujours une différence. Je dis souvent, moi, je parle de ce dont j'ai guéri et pas de ce dont je vis, parce que ça m'intéresse pas, dans le récit d'un one-man show, de parler au présent et que ce soit mon journal intime, parce que j'aime bien le processus créatif et d'inventer des choses sur des choses passées dont j'ai guéri pour avoir le recul et l'autodérision. Mais donc, du coup, ce livre-là, ce travail-là, m'a parlé pour plein de choses. M'a parlé aussi sur la sororité, le fait qu'elle confie comme ça ce chagrin d'amour, enfin cette lettre à des femmes. Et c'est marrant parce que ma toute première chronique, je crois, sur France Inter, je l'ai écrite sur les chagrins d'amour. C'était ma première ou ma deuxième. Mon premier passage sur France Inter, genre en 2013, par les chagrins d'amour. Et c'était tiré du premier spectacle que j'écrivais à ce moment-là, où j'écris en fait sur un chagrin d'amour, en effet, qui était... J'ai été quittée, j'ai découvert Sophie Calle, le mec est revenu, et du coup, j'ai pu écrire sur les souffrances de cette rupture, et je les ai mises en scène dans ce spectacle, et que c'était une grande joie de me dire, je sais pas si ce qui m'a guéri, c'est qu'ils reviennent ou que j'en ai fait quelque chose d'artistique. Et du coup, ça, c'est... Voilà. Et j'ai toujours ça dans un coin de ma tête, et je l'ai eu aussi beaucoup en pandémie, de me dire à chaque fois, dès que tu... Il y a un peu une angoisse de trop subir et de du coup plus être libre d'inventer parce qu'on a la tête prise dans les interdictions, dans la pandémie, dans le chaos, de me dire il faut absolument essayer de trouver une petite issue créative à ce truc-là parce qu'elle existe. Et donc, c'est quelque chose que je trouve qui est beaucoup plus loin parce que souvent, quand on fait du même chose, est-ce que écrire, c'est une thérapie? Et je trouve que c'est beaucoup plus... compliqué que ça, parce que une thérapie, ce serait juste, je te raconte ma vie telle quelle et je te la mets à plat. Moi, j'ai vu des psys et j'espère que c'est pas une thérapie et que c'est pas tellement confidence qui guérit, c'est de transformer en quelque chose de créatif qui guérit, je trouve.
Il y a aussi quelque chose avec l'identification qui est très important, je trouve, dans ton travail et dans la manière dont le public, je pense, se réfère à toi. C'est que justement, par l'autodérision dont tu parlais tout à l'heure, par le fait qu'on sente que ce que tu racontes, tu l'as dépassé quelque part, donc c'est toujours appréciable parce qu'on n'a pas non plus envie de se retrouver face à un miroir toujours quand on va voir un artiste sur scène. Ça se fait que ton public se fédère à toi de façon qui est quand même, j'ai l'impression, hyper forte, hyper affective. Et ça, tu le ressens?
Ouais, j'ai vraiment une relation un peu... je pense que sans doute beaucoup de gens qui sont sur scène ont ce truc-là, mais c'est vrai que j'ai une relation d'amour. J'ai l'impression d'avoir le meilleur public. Il y a une communion au moment sur scène. Et après, il y a une pudeur. J'ai l'impression qu'ils comprennent très bien que je peux faire tout un spectacle et donner énormément de ma personne quand je suis avec eux. Mais que quand on va se croiser, par exemple, dans les coulisses ou dans le théâtre après ou à la sortie du théâtre, quand parfois ça peut arriver, que tout à coup, je suis tellement intimidée que eux, je vois qu'ils prennent leurs précautions et qu'ils sont doux. Je sais pas, il y a un truc très, en effet, proche. Moi, quand je reçois des messages de gens qui me disent merci, je suis là, non, mais moi, sans vous, en fait, je peux pas du tout faire mon métier. Donc, je comprends même pas qu'on me dise merci. Sur scène, je le ressens beaucoup quand on s'est retrouvés, quand on a eu le droit de jouer pendant le couvre-feu, pendant les trucs. Je m'étais dit, ça va être sinistre, les masques, les distanciations. Et en fait, c'était dingue. Et il y a vraiment un truc de communion et tout. Ça me touche beaucoup de voir des couples rire énormément à des passages, des couples ensemble qui vont bien et qui sont capables de voir que, bah, oui, il y a du chaos et que, oui, il y a des dysfonctionnements et que c'est aussi très beau, quoi.
Tout le monde en a parlé, celui-ci, la charge mentale. J'avais même pas eu le temps de le voir. Mon mari me l'a envoyé. Et on l'a encore regardé il n'y a pas longtemps avec mes filles. Et on était morts de rire tous les deux. Les filles disaient, pourquoi vous rigolez autant? Mais parce que c'est trop lui, la voix de grand-mère, là.
C'est mignon, vrai, ouais, ça. Ce truc. Et c'est marrant quand ces trucs-là génèrent. Enfin, c'est hyper doux comme sensation, hyper joyeux, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que la plupart des hommes, et beaucoup d'hommes, dans mon spectacle, évidemment, c'est pas du tout. C'est-à-dire qu'autant sur mon premier spectacle, j'avais l'impression que non seulement c'était des femmes, mais que c'était les mêmes femmes que moi. On était coiffés pareil, on avait le même truc. En même temps, on était 19. Enfin, c'était 19. Donc, on était très fermés. Et ça s'est élargi et tout. Et les hommes sont super, mais c'est vrai que par exemple, sur les réseaux sociaux, cette autre réalité dont on parlait au début, il peut y avoir des trucs du genre, son mec, le pauvre, est-ce qu'il a dû prendre? Moi, c'est la chronique préférée de mon mec, par exemple, la charge mentale. C'est sa chronique préférée parce que, en fait, c'est aussi beaucoup d'amour, ce truc-là. Et c'est ça, je trouve que quand on est binaire, on peut pas voir ça, mais de rire de ça, c'est de se réconcilier de ça aussi. C'est à la fois le pointer du doigt et vouloir le combattre, mais c'est à la fois avoir une... C'est important de garder une forme de tendresse dans ces combats, je trouve, quand on aime et qu'on veut se comprendre.
Il y a eu deux rôles assez récents. Il y a eu celui de Valérie, dans Double Vie, ouais, d'Olivier Assayas. Celui d'Éléonore, dans Léonore, réalisé par ton frère. Éléonore, Nora. Mais si tout le monde a semblé penser qu'Éléonore, c'était toi, je sais pas pourquoi, quand je t'ai vu jouer Valérie, je me suis dit, il y a forcément quelque chose de très fort aussi de Valérie en elle. En fait, un peu, on va dire, un mélange des deux, entre cette femme un peu presque castratrice. Je raconte, pour ceux qui n'ont pas vu le film, sans spoiler, mariée à Vincent Macaigne, assistante parlementaire, extrêmement dans le contrôle et qui doit faire avec Vincent Macaigne, qui est quand même assez infidèle. Et donc, Éléonore, cette femme dont on dit qu'en gros qu'elle est ratée, qu'elle trouve une nouvelle solution pour sortir d'une dépression qu'elle ne formule même pas vraiment.
Mais c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup troublée, mais c'est un truc qui a été lié à plusieurs choses. Éléonore, le fait que, le frère filme sa sœur, que l'affiche, c'était vraiment moi, toute seule, comme ça. Il y avait un espèce de truc où les gens, et d'ailleurs même dans certaines critiques, parce que j'ai tendance à accepter, je l'ai beaucoup eu avec mon spectacle, à accepter toutes les critiques. Ce qui me gêne, c'est quand il y a un truc qui n'est pas compris. Et par exemple, des gens qui pouvaient dire c'est une énième déclinaison de son personnage de scène, pas du tout, parce qu'en fait, ce n'est pas mon phrasé, c'est pas mon écriture, c'est pas moi. Enfin, c'est pas. Et je pense que ça aurait été un autre réalisateur, on n'aurait pas eu droit à ça. Là, il y avait une espèce de confusion de genre, on met en cinéma son personnage de scène. Donc, je devais souvent me justifier qu'en effet, c'était pas moi. Alors que, en effet, comme tu dis, il y a peut-être plus de moi dans Valérie. En fait, il y a forcément de soi dans chacun des personnages, j'imagine, qu'on interprète. On essaye de, puisqu'on les comprend et qu'on y met notre intime pour essayer d'être au plus juste de ces personnages. Mais c'est vrai que le personnage de Valérie, au-delà du fait qu'elle a un mari infidèle, mais était à un stade de sa vie qui était plus proche du mien mentalement dans sa charge mentale, justement. Je trouve que ça parle beaucoup de charge mentale, en fait, dans le personnage de Valérie. Et surtout, ce qui me plaisait le plus, c'est que, en lisant le scénario, je l'ai toujours trouvée profondément amoureuse. Et comme je dis, j'aime beaucoup, quand je te parlais d'amour qui s'effrite, je trouve ça très beau, en fait, que ce soit compliqué.
Alors, je sais que tu n'as pas de modèle, que c'est pas ton truc.
C'est terrible.
Mais pour terminer, est-ce que tu as quand même des inspirations, des choses, et ça peut être, je sais pas, un film, une héroïne, une chanson, une œuvre d'art, des choses qui te portent? On a déjà parlé de Sophie Calle.
Il y a beaucoup de femmes je dis des femmes. Alors d'ailleurs, voilà, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc à citer que les femmes, je pourrais aussi citer des hommes, mais je m'aperçois quand même que au-delà de la volonté de vouloir parler des femmes et tout, il y a quand même un truc que moi je m'étais pas formulé jeune, mais je pense qu'il y a un truc qui est très simple parce qu'on théorise aussi beaucoup tout ça et on est capable de le dire et ça existe, on quantifie la présence des femmes qui est moins présente, je sais pas comment l'exprimer. Moi, je me souviens que ça venait d'un truc très jeune. Je disais souvent, non, mais ce film, il est chiant, il n'y a pas de femmes dedans. Ou non, j'aimerais bien un film avec plus de filles. Ou un truc. Et que j'ai toujours aimé, en effet, peut-être par désir d'identification ou de voir peut-être, parce que c'était pas toujours voir des femmes filmées, mais peut-être voir des personnages filmés par des femmes, un regard différent. Donc, du coup, par essence, il y a beaucoup les trucs qui m'inspirent le plus, ceux qui m'ont plus sont souvent des boulots de femmes. J'aime beaucoup Greta Gerwig. J'aime beaucoup Julie Delpy. J'aime beaucoup Today's in Paris. C'est un truc que je trouve très fort dans ce que ça raconte dans la comédie. J'aime beaucoup ce mélange en fait de comédie et du couple et de la liberté et de ce qu'elle raconte d'elle et de Voilà, et j'aime beaucoup son travail, même dans La Comtesse, qui est très différente de Two Days in Paris. Voilà, j'aime beaucoup Julie Delpy. J'aime les romans graphiques d'Ali Broche énormément. Et à Claire Bretéché. Quand j'ai commencé à écrire du one-man show, je regardais beaucoup de BD, parce que j'avais le sentiment que c'était un peu le même processus, que c'était fallait que ce soit une image forte, un truc... Enfin, et je me disais, faut que ce soit très vite compris. Et par exemple, quand je parlais de parfois cette nouvelle tendance à montrer qu'on a compris le monde plutôt que de juste faire rire, moi, j'ai beaucoup ça à l'écrit. Quand j'écris mon spectacle, il y a toujours une version que j'appelle version assise et version debout. Et la version assise, je répète 50 fois la même chose de manière différente pour montrer que j'ai compris le monde. Et en fait, quand je suis debout sur scène, je suis là, genre, je me mens con avec son émo. Je suis là, OK, je barre tout. Ça va être une ligne qui ne va pas montrer aux gens à quel point j'ai compris, mais à quel point ce truc m'irrite, par exemple. Et ce qui me paraît plus intéressant sur un one-man show, parce que je suis pas en train d'écrire un pamphlet, quoi. Donc, j'admire énormément le boulot. Si elle m'écoute, elle va penser que c'est pas objectif, parce que je lui dis beaucoup, mais de mon amie Monia Chokri, qui est devenue une de mes meilleures amies et qui est démente et qui a un film dément à sortir là prochainement, que j'ai vu, que je trouve assez incroyable. Et je l'admire justement pour sa capacité à nuancer les choses, à avoir un propos très juste, sans jamais rentrer dans le réalisme plombant. Il y a toujours de la cinématographie, de la fantaisie, de la comédie, et c'est à la fois très fort pour moi, très politique dans le bon sens du terme.
Mais on sent que l'amitié, ça compte beaucoup pour toi.
Oui, parce que j'en ai pas beaucoup. Enfin, j'en ai pas beaucoup. Mais oui, ça compte beaucoup. Moi, je parle toujours d'amitié amoureuse. Je trouve que c'est les gens qu'on aime, c'est enfin les amis, quoi. C'est comme des amoureux, quoi, d'amitié, mais et qu'il faut en prendre soin et les chérir.
Merci Nora.
De rien.
C'était Écouter les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.